Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
C'est non seulement l'un des grands noms de la danse moderne, mais aussi une pionnière avide de nouvelles technologies. Blancali, qui s'apprête le mois prochain à passer un cap dans la réalité virtuelle qu'elle affectionne avec le Bal de Paris. C'est un spectacle vivant, avec des vrais danseurs, mais aussi immersif à Paris. Ce Bal de Paris, au Palais de Chaillot, du 7 au 16 octobre. Bonjour Blancali.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur France Musique. Il y a une semaine quasiment, le contenu interactif de ce nouveau spectacle, il a remporté un prix très prestigieux, c'est le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Vous êtes lauréate de la meilleure expérience de réalité virtuelle, dont on va parler jusqu'à 9h. Pour vous, c'est un prix qui encourage, qui vous conforte dans vos choix, ou bien vous ne doutez pas et vous êtes sûr de vous, même avant les prix qui
non,
arrivent.
C'est plus qu'encourageant, c'est fantastique. C'était très émouvant parce que c'est un projet que je porte depuis presque 300, qui a commencé comme un rêve qui était dans ma tête uniquement et que tout le monde me regardait avec des grands yeux en train de me dire « ça c'est impossible » et que j'ai quand même tenu très fort pendant tout ce temps. Et j'aurais jamais imaginé finir à la Biennale de Venise, au Festival de cinéma, avec ce projet qui était un projet interactif de danse au départ. Non, je suis très, très touché.
Alors ce projet, on va en parler jusqu'à 9h. Il y a certainement beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont circonspects, qui se demandent de quoi il s'agit. Vous allez nous expliquer très concrètement comment ça va se passer. Je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière. En plus de 20 ans, vous avez travaillé avec beaucoup d'opéras, sur beaucoup d'opéras, dans des grandes maisons, à l'Opéra de Paris, au Metropolitan de New York, au Châtelet, et bien d'autres en Espagne aussi. Ça fait longtemps que vous n'avez pas travaillé sur des opéras. Ça vous manque ou vous avez tourné la page?
Non. C'est juste que, bon, il y a des périodes dans la vie où on est plus sur des choses et qui ne nous permettent pas de tout faire. C'est vrai que j'adore l'opéra. Et d'ailleurs, on a un très beau projet avec William Christie, et qui va être mon prochain projet d'opéra. Et c'est vraiment... Non, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que les dernières années, j'ai moins fait parce qu'on était très, beaucoup en tournée, beaucoup avec la création du spectacle pour la compagnie de danse. Et aussi, depuis un an et demi, je dirige les théâtres del Canal à Madrid, qui est un très grand théâtre où j'ai fait toute la direction artistique. Et c'est un travail passionnant où je peux programmer aussi beaucoup de spectacles.
De la musique.
Et de la musique. Donc, ça me permet d'être très en contact aussi avec le monde de la musique que j'aime tellement.
Donc, prochain projet avec William Christie. Le premier opéra sur lequel vous avez travaillé, c'était aussi avec William Christie en 1999, Les Indes Galantes. extrait des Indes galantes de Jean-Philippe Rameau, Les Arts florissants, dirigé par William Christie, avec la voix de Myriam Ruggieri ici. C'est des souvenirs lointains, Blancali. C'était en 99 à l'Opéra de Paris. Votre première incursion dans l'opéra.
Oui, c'est un souvenir magnifique. Et après, bon, c'est une opéra qui a resté en répertoire, qu'on a repris plusieurs fois. Et c'était, la création était une aventure magnifique avec, avec beaucoup, beaucoup de monde. Et j'avais eu la chance d'avoir 20 danseurs pour cette création où j'ai dû créer une heure de ballet parce que c'est vraiment une opéra ballet. Ce que c'est fait, c'est beaucoup à cette époque et moins dans les opéras plus modernes. Et, mais c'était génial de travailler sur cette opéra parce que bon, la musique est très belle et l'histoire était très universelle, très fantastique, non? C'était un monde fantastique, donc ça m'a permis beaucoup de liberté et j'étais partie vraiment sur quelque chose d'assez contemporain avec aussi un peu d'humour parce que l'esthétique de toute de cette version qu'on avait faite était assez drôle, non? Et c'était très vivant, c'était très... Et travailler avec William Christie, ça a été pour moi une découverte parce que il m'a appris aussi tout ce qui était la musique baroque que je connaissais pas tellement à l'époque et vraiment c'était une expérience très riche pour moi.
20 ans plus tard, il y a eu une nouvelle version des Indes galantes, mise en scène par Clément Cogitor, qui a beaucoup fait parler d'elle à Bastille. L'arrivée des danses urbaines dans l'opéra, c'est une forme de révolution selon vous ?
C'est une danse qui est arrivée depuis un moment hein, sur les scènes de Le Monde et dans les scènes de l'opéra. Mais c'est vrai que dans cette proposition concrète qu'il y a eu, et c'était l'écran qui est une danse très spéciale, assez forte et avec un peu de la rage. Non, c'est une danse qui est très très spéciale et je pense que ça correspondait très bien et la manière comment elle a été utilisée dans cette opéra était très très intéressante et très belle. Moi j'ai trouvé le projet très très bien.
Blancali, le bal de Paris au Palais de Chaillot du 7 au 16 octobre. On parlait de révolution. En quoi la réalité virtuelle selon vous en est-elle une pour le spectacle vivant ?
Justement, c'est ce qu'on va voir parce que jusqu'à là, il n'y a pas
vous
eu vraiment. Jusqu'à là, il n'y a pas encore eu beaucoup de beaucoup d'expériences en réalité virtuelle dans le spectacle vivant. Et c'est ça a été un peu tous les problèmes de ces projets depuis les 12, c'est que je voulais absolument que dans le monde virtuel, il y a le vrai spectacle. Et ça, c'était toute la difficulté des de projets. Comment faire pour que le public et les danseurs puissent se voir et se rencontrer dans un monde virtuel, se toucher, danser ensemble et vivre un vrai spectacle. Et à l'époque, quand j'ai commencé, technologiquement, c'était vraiment impossible. Donc, on a passé énormément de temps déjà à développer la technologie pour pouvoir se trouver dans un groupe de personnes, tous ensemble, se voir et participer d'une manière interactive à la danse. Et ça a été le premier grand problème que j'avais rencontré. C'était vraiment technologique. Où étaient les limites? Et on a poussé les limites. Et on est toujours dans une technologie qui est assez jeune, quelque part, non? Et qu'on doit encore, je pense, dans quelques années, peut-être que ce que j'ai fait aujourd'hui, ça sera super facile, mais aujourd'hui, c'est encore très difficile. Mais je pense que c'est une porte qui s'ouvre très intéressant pour les spectacles vivants. Et en plus, dans ces spectacles que j'ai fait, il y a aussi une énorme partie qui est la musique, parce que c'est vraiment comme un opéra. Et on a écrit un scénario, parce que je voulais qu'il y ait une vraie histoire, qu'il y ait des personnages, qu'il y ait la musique. Et donc, on a écrit un scénario, on a écrit la musique avec Tao Gouté, le compositeur qui travaille avec moi. On a enregistré les voix, on a enregistré l'orchestre et le public, en réalité, il vient faire partie de cet opéra, de cette histoire, et en devenant eux-mêmes les personnages. Donc, quand ils rentrent dans l'expérience, ils deviennent eux-mêmes personnages. Et ils vont interagir avec les danseurs parce que c'est des personnages dans l'histoire.
Vous allez nous expliquer ça dans un instant, mais d'abord, la musique de ce spectacle, en voici un extrait.
Thank you.
musique qui est dans le spectacle Le Bal de Paris à Chaillot, à Paris, du 7 au 16 octobre. Le nouveau spectacle de Blancali. Et ici, si je ne m'abuse, c'était la valse des violettes d'Émile Weiteufel, le compositeur strasbourgeois. On sera d'ailleurs à Strasbourg en direct demain matin. En tout cas, si l'intelligence artificielle fonctionne, puisque c'est mon petit téléphone qui m'a aidé à retrouver cette musique, Blancali, je voudrais qu'on comprenne très concrètement ce spectacle. Je prends mon billet, j'arrive au Palais de Chaillot. Qu'est-ce qui se passe? Je mets un casque?
Oh, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
On va c'est, pas tout dire, mais quand même.
C'est vraiment, je veux dire d'abord que les gens, il faut pas qu'ils aient peur, parce que on a fait une expérience qui est très agréable, très drôle, et pas du tout ce qu'on imagine avec la réalité virtuelle. On a eu beaucoup d'expériences où on a les vertiges, où on joue sur des choses qui sont très extrêmes, et moi, je l'ai utilisé vraiment pour rentrer dans une spectacle. Donc les gens vont être dans un spectacle, donc pas des sensations d'angoisse ou de vertige.
C'est pas la fête foraine.
Non, pas de tout ça. Et c'est vraiment fait pour qu'on peut venir en famille avec les copains pour tous les âges, vraiment pour tous les âges. Et on a fait des tests où vraiment des gens même qui avaient des vertiges ont vraiment très bien vécu. Et donc pas avoir peur, la première chose, parce que c'est vrai que ça fait un peu bizarre de dire ah, c'est la réalité virtuelle. Et après, ce qui se passe, la première chose, c'est qu'on reçoit les gens, on va leur expliquer, on met l'équipement sur chaque personne qui est un casque sur la tête, et après il y a les capteurs sur les mains et les capteurs sur les pieds, et un backpack où il y a un ordinateur. Tout
donc
ça.
Une sorte de sac à dos.
Voilà, c'est comme un sac à dos où il y a un ordinateur. Donc, une fois qu'on est équipé avec tout ça, on rentre dans le monde virtuel. La première chose qu'on voit, c'est un espace, comme un espace d'habillage, où on peut choisir comment on veut être habillé parce qu'on est invité à une grande fête. Donc, on a des robes magnifiques qui ont été créées par
Chanel.
Par Chanel, parce que je voulais absolument qu'il y a un créateur de mode qui fait les costumes comme pour un spectacle vrai. Donc j'ai été les voir et j'ai dit je voudrais avoir des robes magnifiques pour les avatars de mon spectacle, pour que le public ils se sentent très beaux. Ça, c'est important. Donc, on va aller à une grande fête. On choisit la robe qu'on veut porter, les costumes pour les hommes. On peut choisir être habillé en homme ou en femme comme on veut, parce que ça suffit de toucher la robe et ça se met sur ton corps. Et à partir de ce moment-là, on rentre dans la fête. Et dans cette fête, on va suivre l'histoire de ces personnages, une histoire d'amour, avec la musique, avec les chansons qui ont été écrites, où on raconte l'histoire, un peu comme un musical. Et on va suivre ces personnages jusqu'au bout, pendant trois actes différents. Et le public, il va faire partie intégrale de l'histoire.
Et le public, il danse? Est-ce que les spectateurs vont jouer le jeu, Blancali?
Et chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est comme si on est dans une. L'idée, c'est qu'on est dans une fête. Donc, dans une fête, on fait ce qu'on veut. On n'est pas obligé de danser, mais si on a envie, et les danseurs, ils vont inviter le public à danser. Le public peut danser entre eux aussi. Et c'est vraiment libre. Hein. On est obligé de rien. On danse ou on ne danse pas. Mais les gens qui dansent, c'est parce qu'ils ont envie. Et les gens qui ne dansent pas, c'est parce qu'ils ont envie juste de regarder. Donc, c'est vraiment très libre. Hein.
Mais c'est aussi un spectacle vivant. Il n'y aura pas qu'une expérience immersive virtuelle. Il y aura des vrais danseurs.
Exactement. Dans l'expérience même, les danseurs, ils jouent les personnages principaux de l'histoire et en même temps, ils dansent pendant tous les spectacles. Ça veut dire qu'ils font une performance aussi. Donc, on a les danseurs là qui performent pour toi, hein, tous les uns à côté. Et de temps en temps, ils viennent vers toi et ils partagent la danse avec toi.
Ce que vous nous décrivez, ça ne s'est jamais fait? C'est une première?
Ça n'est jamais fait. Et c'est pour ça que c'était...
Il vaut mieux rire qu'être stressé, vous êtes là.
Non, parce que c'est compliqué de faire quelque chose qui n'a jamais fait, parce que quand les choses ont été faites, c'est beaucoup plus facile d'expliquer que quand ça n'a jamais été fait. Et donc, c'est ça tout l'intérêt aussi, et c'est mon plaisir, quand on a fait l'avant-première à Madrid, c'était de voir le public rentrer déjà sans savoir de tout qu'est-ce qu'ils allaient vivre, mais surtout de les voir sortir de l'expérience en disant je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Et c'est bien parce que on n'a pas de référence sur, et ça c'est rare aujourd'hui de pouvoir vivre quelque chose sur lequel on a zéro référence, non?
Vous savez quoi, Blancali, moi, ça m'a donné très envie d'essayer. C'est du 7 au 16 octobre à Chaillot, à Paris, si vous voulez y aller. On se retrouve dans un instant. Blancali est l'invité de France Musique ce matin. Connu, Blancali.
Oh là 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 là. Que c'est de belles musiques, c'est magnifique. Ça, c'est un bon réveil, non?
Pulcinella. Stravinsky, ici, ouais, avec l'orchestre de Cologne.
C'est une merveille. Et j'ai eu la chance de faire ces ballets l'année passée pour la Compagnie Nationale, pour les ballets nationaux d'Espagne. Et c'est vraiment une musique qui a tellement de détails, tellement de charme, tellement d'humour, tellement de beauté. Ça m'a tellement inspiré que la création sortait tout seul. Quand j'étais avec les danseurs, c'était incroyable. C'est les choses. C'est des fois quand on fait les chorégraphies, on retravaille. Et pour Pulcinella, je sais pas, c'est comme si les mouvements sortaient tout seuls de mon corps. C'était très, très spécial de faire cette chorégraphie.
Vous avez réussi donc à faire un ballet pendant la période compliquée de ces derniers mois. Ça a été pas plus simple, mais en tout cas, il y a eu plus de possibilités de faire des spectacles en Espagne ces derniers mois. D'ailleurs, vous avez évoqué cette avant-première que vous avez donnée à Madrid en décembre dernier pour le spectacle
Le Bal de
Paris.
C'est très curieux ce qui s'est passé, surtout à Madrid, et où j'étais nommé directeur artistique des Théâtres del Canal, qui est un théâtre avec trois salles de spectacle dans le même théâtre. Un assez grand de 1000 places, une autre de 600 et une autre de 200 places. Et j'ai commencé à travailler. Et là, il y a eu l'épidémie qui arrive. Donc, on a fermé comme tous les théâtres au monde. Et après les 3 mois que les théâtres avaient ouvert, un peu comme partout, on pensait que c'était fini. Donc, les théâtres sont rouverts. Et après, ça a recommencé. Mais pour une raison... vraiment une décision politique de la ville de Madrid, ils ont décidé que la culture devait rester ouverte. Donc, ils ont permis au théâtre, au musée, au cinéma de continuer leur activité, même s'il y a eu des montées, des descentes, des vagues pendant toutes les périodes. Et la seule chose, c'est qu'on avait des restrictions, bien sûr, des publics. On était à 30%, après on était à 40%, on est arrivé à 70%, après on est redescendu à 60%. Et les horaires, des fois, on avait jusqu'à minuit, des fois on avait jusqu'à 9h. Donc on devait tout le temps s'adapter à les changements, mais le théâtre n'a jamais fermé les portes entre les mois de juin et aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a traversé toute cette année et demie, pratiquement, de pandémie, avec les portes ouvertes tous les soirs pour des spectacles. Et ça, c'était quelque chose d'assez émouvant parce que j'ai réussi à faire venir même des compagnies internationales qui jouaient, que les seuls spectacles qu'ils jouaient de l'année, c'était dans notre théâtre à Madrid. Et j'avais un public très, très ému, très touché tous les soirs qui venaient au théâtre. On a eu vraiment pratiquement le théâtre plein tous les soirs pendant un an et demi.
À propos de théâtre, c'est donc à Chaillot que vous donnez ce bal de Paris. Vous avez un rapport particulier à cette salle, à ce spectacle, cette salle parisienne du Palais de Chaillot?
Bien sûr, parce que bon, c'est un théâtre dans lequel j'ai fait beaucoup de mes spectacles depuis pratiquement mon arrivée en France. Et l'équipe de le théâtre de Chaillot est une équipe magnifique et que je connais très bien, avec qui on a beaucoup de relations presque d'amour déjà, parce que c'est vrai que le théâtre, quand il reçoit les artistes, on s'habitue, on se connaît, et c'est vraiment une équipe que j'aime beaucoup. Et après, bon, c'est à Paris, c'est la ville où j'habite depuis tellement d'années maintenant, je me sens très parisienne. Et en plus, les balles de Paris se passent à Paris, dans un grand palais, donc un peu comme ça pourrait être comme un grand palais comme Chaillot. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a un moment dans le monde virtuel où on va passer devant la Tour Eiffel. Parce que moi, j'adore la Tour Eiffel. Et alors, ce qui est drôle, c'est que justement, à Chaillot, on va faire une espèce de bal aussi pour quand les gens vont sortir de l'expérience. On va les accueillir, pardon, ma prononciation, dans un vrai bal où on va pouvoir danser avec cette magnifique Tour Eiffel de fond qu'on a à Chaillot. Donc, c'est une vraie fête, c'est plus qu'un spectacle, c'est un spectacle, mais c'est aussi une expérience et c'est surtout une expérience de partage et une expérience, je pense qu'aujourd'hui on a besoin plus que jamais de vraiment vivre des choses un peu qui nous sortent de le monde réel et je pense que là, vraiment, je vais pouvoir sortir de le monde réel.
À partir donc de début octobre à Chaillot, est-ce qu'il y a des limites à ça, selon vous, à cette exploration technologique, peut-être des limites éthiques? Est-ce qu'un jour, vous aviez fait il y a presque 10 ans, robots, enfin c'était en 2013, les robots, un jour, ils vont remplacer les danseurs?
Je sais pas, la technologie évolue tellement vite, on sait pas vraiment où elle va nous amener, mais moi, je pense toujours, c'est bien qu'on a tous ces machines, tous ces robots, toutes ces technologies, mais à la fin, derrière chaque robot et chaque programme et chaque création, il y a quand même nous. Et à la fin, il y a toujours nous. Donc, moi, je pense que le spectacle vivant, c'est quelque chose d'irremplaçable, même si on crée des nouvelles formes, comme j'ai pu faire avec le Bal de Paris, qui est un spectacle virtuel. Les vrais spectacles, c'est une expérience irremplaçable. Ça sera jamais, une chose va jamais remplacer l'autre. Je dirais que c'est juste des nouvelles formes d'art qui surgissent grâce à nouvelles technologies, mais c'est très intéressant.
Entrée dans la danse de Blancali au Bal de Paris, au Palais de Chaillot, du 7 au 16 octobre. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur France Musique. Ça vous va si on se quitte avec Granados?
Oh là là, j'adore. Ah oui, 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 oui.
Mama, no me
C'est une petite avant-première sur France Musique, un disque qui sort en octobre. À sa guitare, Philippe Jaroussky et Thibaut Garcia à la guitare. El Mirar de la Maja, je prononce
El
à peu
Mirar
près.
De la Maja.
Ce qui veut dire le regard de la belle femme.
Ouais.
Comme vous. C'était donc
Granados. Merci.
Et d'ailleurs, ces deux musiciens, ils seront dans votre théâtre Del Canal à Madrid en
décembre.
Voilà.
Oh, ouais.
Donc rendez-vous avec eux. Merci beaucoup,
Blanc
Ali. À très bientôt.
Merci.
Demain, nous serons en direct de Strasbourg, de France Bleu Alsace, pour le festival de création musicale Musica. On sera aussi avec la maire de Strasbourg, Jeanne Marseguian. À la technique ce matin, c'était Jean-Frédéric, c'est YouTube Diego Aclopez. À la production, Marion Guillemet, Flora Sternadel et Pierre Matignon. À la réalisation, Yacine Bouzard. Et la réponse à notre jeu, Mademoiselle, disait Léonard Bernstein. Il parlait bien sûr de Nadia Boulanger. C'était la bonne réponse. Voici l'autre regard d'une belle femme, c'est Émilie Munera. Bonjour Émilie, bonjour Rodolphe.
Bonjour Jean-Baptiste, vous êtes sympathique. En plus hier Rodolphe m'a dit que j'étais superbe, c'est ma semaine je crois aujourd'hui.
Ça le rend muet.
Voilà, alors on va écouter le Jersey Noir Monico, Antonini, toujours la suite de cette grande intégrale Haydn qui finira en 2032, donc on se demande toujours si on va arriver jusque là. Et pour l'instant c'est son 3 symphonies le soir, le matin, le soir, le midi.
Bah, matin, on prend tout, à demain.
Oui, à demain Jean-Baptiste.